Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et si nous pouvions tous devenir des champions? C'est ce dont nous allons parler avec mon invité du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de sport, de course à pied, de mouvement, du plaisir de bouger et des défis que nous pouvons nous lancer. Et mon invité du jour est vraiment un adepte des défis. Attention, accrochez-vous bien. Triathlon, Ironman, tentative d'enduroman dont nous avons déjà parlé dans l'épisode avec Marine. Et pourtant, il y a une dizaine d'années, Arnaud de Meester était un vrai hamster. Il ne faisait plus de sport, tournait dans sa roue, rempli de boulot. Et puis, lors d'une soirée arrosée, il s'est inscrit à une course de vélo. À partir de là, tout s'est enchaîné. Arnaud a aussi la particularité de créer ses propres défis, comme le 666 dont il va nous parler. Dans cet épisode, nous allons parler de son parcours, de ses défis, de comment il s'est entouré de sponsors, d'une équipe, de son mental, de comment il crée, oui, ses propres défis, comment il se lance dans de nouvelles aventures, comme par exemple l'aventure dont il va se lancer dans quelques mois maintenant. Et attention, accrochez-vous bien, car Arnaud pourrait bien vous convaincre de vous lancer vous aussi dans des défis complètement fous. Avant de vous laisser avec Arnaud, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci d'abord de partager, si nombreux, le podcast sur Instagram, sur Twitter, avec le hashtag KM42podcast et mon nom, @BertrandSoulier. J'adore voir où vous écoutez le podcast, comment vous l'écoutez, comment vous réagissez aux différents épisodes. Merci aussi à ceux qui soutiennent le podcast par Patreon, qui soutiennent finalement plus que le podcast, mais aussi mon rêve à moi de devenir sportif pro à ma manière, champion du monde de mon monde. Vous rentrez alors dans les coulisses avec mon journal d'entraînement, le podcast privé qui te donne tous les détails sur mes entraînements, sur mon état d'esprit, sur les épisodes en avance aussi, et surtout les épisodes sans la pub. Puis merci aussi à tous ceux qui ont rejoint le Hamster Zoning Club, le club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis. Il est temps maintenant pour moi de fermer ma bouche pour nous embarquer dans les défis endiablés d'Arnaud. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Mais écoute, je vais très bien. J'ai découvert ce matin 5 cm de neige à Bruxelles, donc très heureux de voir ce changement de climat.
Alors, j'ai eu à me dire, parce que comme ça, quand je préparais un petit peu tout à l'heure, je regardais, je me disais, ces 5 cm de neige, ils sont quoi pour le sportif que tu es? C'est sympa, c'est un défi, ça m'embête un peu, c'est quoi? Comment tu les vois?
Moi, ce n'est que du bonheur. Je suis quelqu'un, je préfère travailler dans la difficulté que dans l'aisance. Donc, quand je vois de la neige, ben, je me dis, voilà, je vais m'adapter. De toute façon, c'est beaucoup plus beau avec de la neige que sans neige. Donc, voilà, c'est un point positif. Il fait frais, c'est un point positif. Voilà, il y a un peu moins de monde en forêt. Ceux qui sont en forêt quand il y a de la neige, ben, c'est des gens un peu motivés. Voilà, je nourris un peu plus mes oiseaux dans mon jardin parce qu'ils ont faim. Voilà, non, je trouve ça très positif.
Alors rien qu'en disant ça, déjà, je pense que les gens ont cerné un petit peu quand tu dis que tu nourris de la difficulté. On va rentrer, bien sûr, je vais te demander de te présenter en quelques mots, mais c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu ton, on va dire, ton CV sportif, la difficulté, vraiment, hein, c'est vraiment le mot d'aller rechercher ces défis-là, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne, mais énormément, c'est pour ça que je voulais t'entendre. Alors, la première question que j'avais envie de te demander d'abord, c'est finalement, c'est quoi ton métier et qu'est-ce que tu fais? Comment tu te définis en quelques mots?
Mais je me définis tout d'abord comme quelqu'un, je pense, de normal pour moi et de tout à fait traditionnel, conventionnel. Je ne suis pas du tout différent par rapport aux autres, juste que j'aime bien sortir de ma zone de confort. Et comment sortir de cette zone de confort? Bon, c'est allant chercher un peu ce qui est un peu plus compliqué pour certains. Et voilà, j'aime bien gravir et ouvrir une piste en montagne qui n'est pas encore ouverte. Voilà, professionnellement, je suis event manager et community manager dans, voilà, dans ce qui est l'événementiel, qui est complètement à l'arrêt aujourd'hui. Et j'ai toujours créé des événements où on me disait « Ouf, non, oublie, ça existe déjà. » Ou bien « Ouf, non, oublie, ça n'intéresse pas grand monde. » Ou bien « Ouf, oublie, tu ne vas pas trouver de sponsoring. » Et chaque fois, quand les gens me disent « ça va être compliqué pour toi », Mais moi, je me disais, bah, ça peut être compliqué pour eux, mais pourquoi ce serait compliqué pour moi si j'ai la solution? Donc, je pense que j'ai toujours un peu gravi ce qui était difficile à gravir professionnellement. Et suite à cela, ben, je l'ai transféré dans le sport où, ben voilà, où il y avait des choses un peu plus compliquées. Je me disais, ben, c'est compliqué pour certains, mais si je m'entraîne, pourquoi ce serait compliqué? Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
Oui, alors on va quand même préciser ce que c'est que la notion de compliqué, ce qui va apparaître vraiment comme étant très compliqué pour beaucoup, beaucoup de monde. Quand on liste un petit peu les défis, alors d'ailleurs, il y en a tellement, je ne sais pas par quel défi, comment tu... Est-ce qu'il y en a un qui te tient plus à cœur? Comment tu vois un peu les choses par rapport à ton parcours? Est-ce qu'il y a un élément, un de tes défis qui est plus important ou qui tient plus à cœur qu'un autre?
Mais... Je ne sais pas s'il y en a des plus importants que d'autres. Il y a des cadres qui sont différents, comme l'Islande, c'est un cadre qui m'a énormément parlé. La Manche, c'est un cadre qui m'a énormément parlé. Ça me parle parce que c'est des cadres dans lesquels on n'a pas du tout l'habitude de naviguer. Mais à chaque période, bah, c'est sûr, quand j'ai commencé à faire des triathlons, bah, c'est mon plus beau souvenir parce que c'était bah, l'Everest du sport, entre guillemets. Donc voilà, parce que j'étais... peu habitué, mon seuil de douleur n'était pas encore du tout travaillé, donc j'étais vite, comme tout le monde, à peiner. Ben, c'était un bon souvenir, et puis quand il y a eu des Ironman, ben, c'était un bon souvenir, et puis quand il y a eu des doubles Ironman, ben, c'était des bons souvenirs. Et puis chaque fois que ça a évolué dans les distances et tout ça, j'ai augmenté la difficulté atmosphérique du climat, donc, et puis de la situation, puis on augmente chaque fois un peu plus son seuil de douleur et son seuil de en dehors de sa zone de confort. Donc oui, à chaque moment, à son plaisir, voilà. Je vais pas dire que, comme au cinéma, l'acteur va toujours dire « mon plus beau film, c'était le dernier ». Moi pas, moi c'était ma première course au Luxembourg à Echternach. Voilà, j'avais quasi pas dormi de la nuit, je me suis amusé comme un fou, voilà, c'est un terrible souvenir, comme à Abu Dhabi, ou voilà, j'arrive un peu dans tous les pays, c'est, chaque triathlon a sa particularité, voilà, un jour je peux partir à côté de Frédéric Van Leer qui a été champion du monde de triathlon, bon, les 100 premiers mètres évidemment, après il est beaucoup plus rapide, bah, c'est un bon souvenir aussi, on sait pas être à côté de... On ne sait pas jouer au tennis avec Federer si on n'est pas à son niveau. Ben, en triathlon, on peut être à côté des champions du monde tout en étant amateur. Voilà, donc toute situation est super, super enrichissante.
Même le défi 666, ça reste un bon souvenir parce que quand on lit le récit quand même, c'est terrible.
Mais oui, parce que toute situation est enrichissante. En tout cas, moi, je me nourris de toute situation. Mon premier 666, j'en ai fait deux. Mon premier, j'ai été blessé très très fort. J'ai eu l'épiderme fessier qui était complètement brûlé. Donc grave, ce ne l'est pas parce qu'on ne sait pas être blessé plus que l'épiderme. Mais la peau se remet et puis dès qu'on fait un tour de pédale en vélo, ben, ça se déchire, puis ça recommence, ça se déchire, ça recommence. Donc, c'est une des plus grandes douleurs qu'on peut avoir sur le corps. Elle n'est pas grave du tout, mais en tout cas, en point de vue sensation, c'est une des plus grandes douleurs. Mais pour finir, on change cette douleur en... Bon, ça va être étonnant, évidemment. en plaisir. C'est pas vraiment un plaisir, mais on se dit que voilà, c'est ça qui va m'amener à l'arrivée, c'est ça qui va me garder éveillé. Enfin, il faut en tirer des points positifs. Et pour finir, on vit avec cette douleur, comme toute personne qui a des grosses douleurs, ben pour finir, on s'y habitue. Et voilà, c'est un apprentissage mental, physique, voilà, c'est très intéressant.
Oui, alors, il faut quand même dire que défi 666, il faut quand même le préciser. Hein, faudrait que tu nous en dises quelques mots dessus, parce que les gens se rendent bien compte un petit peu du type d'effort que tu as fait ce jour-là, enfin ces jours-là.
Oui, ça c'était le premier, c'était en Belgique, Hollande. C'était 6 km de natation dans un lac. Je précise dans un lac parce que forcément, on n'est pas porté par le sel et par les courants. Et puis 600 km de vélo. Et puis 60 km de course à pied. Voilà, je sais plus, en plus ou moins 50 heures, 49 heures. Enfin, voilà. Ouais.
D'où vient cette idée de se lancer dans un défi comme ça, parce que en fait une des caractéristiques c'est que tu te lances en plus dans des propres défis, t'inventes tes aventures.
Oui, ben, étant dans la création d'événements et dans la production, évidemment, ça ne m'effraie pas de faire toute une organisation rien que pour moi. D'ailleurs, comme disent certaines de mes connaissances, ben Arnaud, tu crées toutes tes courses pour toujours les gagner. Donc, je suis toujours gagnant de mes propres courses, donc c'est très agréable. Mais oui, j'ai commencé le sport sur le tard, ça, il faut le savoir. Je vais avoir 50 ans au mois de juin. J'en ai 30 dans ma tête, donc tout va bien. Mais j'ai commencé le sport à 38-39 ans. Je me suis découvert vraiment cet univers où on partage des valeurs, où on est tous les mêmes, on va tous dans la même direction. C'est vraiment magnifique. Et donc, évidemment, à cet âge-là, j'ai très vite été entouré par une équipe parce que j'ai très vite évolué. Et on a vite remarqué, évidemment, que je ne vais pas battre un jeune de 30 ans sur un Ironman où il le fait en 8 heures et moi en 10 heures. Donc, forcément, à un moment donné, on se rend compte que le corps, à un certain âge, ce qui est logique, et je le prends très bien, ne va plus sprinter comme avant. Hein. On est au top de sa forme à 29 ans. Donc, j'en avais 10 de plus. Donc, c'est sûr qu'on réagit différemment. Mais j'ai une très, très, très bonne récupération à l'effort. Je maîtrise bien le mental. Je maîtrise bien, voilà, la douleur. J'aime bien aller au bout des choses, que ce soit professionnellement, amicalement, familièrement, enfin, à tout niveau. Donc, voilà, j'ai trouvé mon élément dans ces courses à longue distance.
Ce qui est incroyable, tu l'as dit, c'est que tu as commencé le sport sur le tard, où finalement, tu n'as pas fait de sport, enfin, tu en as fait jeune, et puis après, tu t'es totalement arrêté d'en faire pendant 12-13 ans.
Oui, c'est ça que beaucoup de sportifs d'un certain niveau me disent. Ouais, ben Arnaud, toi, t'as facile, t'as rien foutu pendant 15 ans. Et je dis, ben oui, ben écoute, chacun. C'est sûr que si j'avais joué au hockey pendant 15 ans, j'aurais les genoux, le dos, tout en compote. Moi, j'ai fait beaucoup de sport jeune, chaque fois jusqu'à un certain niveau. Dès que j'arrivais à un certain niveau, je me dis, ah, ben c'est chouette le tennis, je suis classé. OK, j'étais à des camps d'entraînement en France et tout. Voilà, j'ai joué. Ah, ben j'aimerais bien, je sais pas, ben, je monter à cheval. Et puis j'allais monter à cheval, je débourrais des chevaux, je faisais du dressage. Et puis je me dis, bon, ben, c'est chouette, c'est pas mal. Est-ce que je ferais pas de la natation? Et puis voilà, et puis je changeais un peu. J'ai fait du golf où j'ai eu un certain classement. Et puis voilà, j'aimais bien. Et puis je sais pas, à un moment donné, voilà, j'ai changé de vie. Je me suis mis à fond dans mon boulot, dans l'événementiel, la communication. Marié, des enfants, ben voilà, un peu la routine, et je suis rentré là-dedans, et je pensais que c'était ça la vie, j'ai fait ça pendant 15 ans, et puis en fait, je me suis vite rendu compte que j'étais pas dans mon élément, enfin vite, il a fallu 15 ans, mais voilà, que j'étais pas vraiment dans mon élément, donc j'ai fait volte-face, j'ai tout rechangé, et je me suis mis à fond dans ce que j'aime.
C'est incroyable. Alors en plus, alors enfin, amusant. Enfin, c'est vrai que l'anecdote est amusante. C'est cette histoire de la première course à vélo quand j'ai lu ça l'autre jour. J'ai dit, c'est quand même fou parce que finalement, ça bascule sur pas grand-chose cette histoire de retrouver une vie sportive.
Oui, effectivement, c'est vrai que ça me fait rire. Par toute façon, toute ma vie me fait rire, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'un soir, j'étais, au fait, pour la petite anecdote, j'étais à une soirée et l'alcool aidant, on raconte beaucoup de bêtises et on se lance dans pas mal de challenges. Et j'ai un copain qui me dit, ah, bah, tiens, tu veux pas aller faire une course en vélo dans une semaine? Il y a une chouette course. Bon, ça vous dit rien, mais Knokke, c'est la côte belge, jusqu'à Ouest-Pellard, c'est une région. Et je dis, ah, bah oui, bonne idée, on va bien s'amuser. Et donc, je rentre chez moi, et le lendemain matin, je me réveille, je me dis, qu'est-ce que t'as été dire comme bêtise la veille? Et en plus, j'ai pas de vélo de course. Bah, j'avais rien, j'étais pas sportif. Donc, j'ai été chez un ami à qui j'ai demandé son vélo. Et j'ai été comme dans les films américains, dans une espèce de cottage, cabane en bois dans le fond de son jardin. Et bien, j'ai un terrible vélo. Il m'a sorti un vélo en acier avec des câbles qui sortent dans tous les sens, plus de chambre à air, un vélo Eddy Merckx, hein, le gros, bon gros vélo. Moi, je pensais que c'était tout à fait normal comme vélo. Donc, j'ai été le faire réparer dans un magasin près de chez moi. Le type m'a tout de suite proposé si je voulais pas acheter un vélo d'occasion et je lui dis non, 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 j'ai une course dans une semaine. Donc, gros mytho aux yeux du vendeur. Il s'est dit, c'est quoi ce type qui vient avec un vieux vélo complètement foutu et qui dit qu'il a une course dans une semaine? Mais j'avais envie d'aller au bout des choses et donc j'ai réparé ce vélo qui m'a coûté le prix d'un vélo d'occasion, je crois. Donc mon copain a fait une bonne affaire, je lui ai rendu un vélo en état de marche. Et me voilà au départ de cette course, mais moi j'y connaissais rien du tout, c'était une course de 140 km. C'était, on s'entend bien, des amateurs plus, c'était pas du tout des professionnels. Et donc me voilà au départ de cette course avec des motards devant, derrière, les routes fermées. Enfin, moi, j'étais très heureux de rouler en vélo. Et je pars comme une flèche et je me dis, tiens, ces gens, ils savent pas très bien rouler en vélo. Ils restent derrière en peloton. Ben, forcément, ils s'économisaient. Eux ont dû se dire, le type devant, c'est un dieu du vélo et il s'amuse avec un vieux vélo. Ou bien, c'est quelqu'un qui va bientôt souffrir. Et effectivement, en une fois, ce peloton, dans une montée, m'a rattrapé et resté à la même vitesse. Et moi, j'ai glissé vers l'arrière du peloton et puis j'ai glissé complètement à la fin. Et évidemment, je suis arrivé tout dernier de cette course, pas avant-dernier. Dernier. D'ailleurs, ils étaient déjà en train de manger et boire quand je suis arrivé en début de soirée. Mais au moins, je suis arrivé au bout. C'est vrai que j'ai tiré fort sur la corde, mais j'y suis arrivé. Et je me suis dit, bah, c'est pas mal pour une première fois faire 140 km de vélo, n'ayant jamais roulé en vélo de ma vie. Je me suis dit, bon, bah tiens, ça, c'est un petit challenge que je viens de me créer sans vraiment le réaliser.
C'est drôle parce que tout le monde redoute, enfin beaucoup on redoute d'arriver le dernier d'une course. Et toi, finalement, tu en as vu quelque chose qui était une incroyable motivation.
Ben oui, c'était génial parce que forcément, j'ai fait l'idiot les 20 premiers kilomètres, les 30 premiers, bon, j'étais déjà à l'arrière. Et puis, j'ai dû mettre des objectifs, des échelons, comme on gravait une montagne, comme je souvent... l'image, c'est, ben voilà, il faut... Allez, j'arrive à 50. OK, 50, j'ai fait. Bon, allez, il faut que j'arrive à 75. OK, j'y suis. Bon, maintenant, palier des 100 km. Allez, allons s'amuser. Allons jusqu'à 100 km, voir comment... qu'est-ce qui se passe derrière ces 100 km. Boum, je suis arrivé à 100 km. Et puis, je me suis dit, bon, ben là, je suis mort. Donc, advienne que pourra, j'ai aucune obligation de terminer, mais... j'ai envie d'y arriver. Et puis voilà, j'ai fait kilomètre par kilomètre et puis j'y suis arrivé.
Et ce qui est incroyable encore plus, c'est que tu y retournes 2 ans plus tard.
Oui, j'y retourne avec une autre motivation, c'est que je suis arrivé tout à fait dernier, je suis retourné au magasin et j'ai dit, vous m'aviez proposé un vélo d'occasion, vous pouvez me le montrer. Et j'ai dit au gars, c'est amusant, c'est vraiment le même prix que j'ai fait la réparation, je crois que c'était plus ou moins 500 euros. Donc j'ai racheté un vélo d'occasion assez rudimentaire, à 500 euros. Et je me suis entraîné comme un fou. J'ai fait un demi-Ironman en Suisse, à Zurich, et puis j'ai fait quelques triathlons. Et cette course, effectivement, je suis retourné... l'année d'après, je n'étais pas encore prêt, parce que je me suis dit, je vais me retrouver au milieu, et ça ne m'intéresse pas. Et alors, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, et ouais, j'ai gagné cette course après 2 ans. Ouais, j'étais assez heureux, et en plus, loin devant. Donc... mais j'insiste, c'était des cyclistes amateurs plus. Hein. C'était pas, j'étais pas contre les grands cyclistes du Tour de France, hein, qu'on s'entende bien. Restons.
Oui, non, mais je veux dire, même à niveau amateur, gagner une course, c'est pas si fréquent que ça. Surtout quand on a fini dernier juste 2 ans avant. C'est, je trouve que c'est vraiment incroyable, et surtout que c'est de se dire comme ça. Tu t'es dit, je vais me donner les moyens de. C'est quoi? C'est pas une revanche? C'est comment tu t'abordes ça en fait? Tu dis d'y retourner?
Non, mais j'étais pas prêt. L'année suivante, j'étais pas prêt parce que forcément, en un an, on s'est pas évolué comme un fou en vélo. Après, je me suis dit, bon, voilà, je suis prêt. Mais j'ai pas été sous un esprit de revanche, certainement pas. Je m'étais dit, bon, voilà, là, je suis bon, je suis prêt. Voilà, qu'est-ce que je vaux, quoi. C'est comme un cheval de course. À un moment donné, il s'entraîne, et à un moment donné, on le met au milieu d'une course pour voir qu'est-ce qu'il vaut par rapport aux autres. Peut-être qu'il s'entraîne, il est très bon, mais comment il va réagir par rapport à l'ambiance, à l'atmosphère. Voilà. Au sein d'une course, c'est pas comme quand on s'entraîne, en montagne ou n'importe où, voilà, c'est une autre atmosphère. Donc je m'étais dit, bon, ben, je vais refaire cette course pour voir un peu où j'en suis. Mais là, quand j'étais dedans, ben, j'étais beaucoup plus à l'aise quand on a démarré. Là, j'ai senti que j'étais complètement à l'aise. C'était plus comme un imbécile non plus à partir comme une flèche. Je me suis économisé. Donc la stratégie était évidemment complètement différente. Et puis à un moment donné, on s'est mis sur un peloton 3 devant. On a quitté le peloton à l'arrière. Donc on a fait des relais à 3. Et puis à serais plus ou moins à 10, 10 km, 10, 8 km de l'arrivée. Bah, on a dit, bah, on se lâche et advienne que pourra, bonne chance. Et voilà. Et là, j'ai mis le paquet, je n'avais même plus respiré. J'ai mis le paquet et j'avais une très belle distance devant. Et voilà, je suis arrivé premier. Voilà, c'était rigolo. Évidemment, les autres râlaient parce qu'ils se souvenaient de moi de 2 ans avant. Et c'était assez rigolo de voir ça. C'est que certains disaient, oui, mais nous, on est tombés. Et voilà. Et, bah, les gens se trouvaient des excuses parce que j'avais gagné. Et là, ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit, tiens, c'est quand même des asticots, quoi. Voilà, c'est comme en rallye ou en n'importe quelle course. Bah, forcément, s'il y en a qui abandonnent, il y en a d'autres qui passent devant. Enfin, c'est la loi, c'est le jeu, quoi. Donc je trouvais ça amusant comme situation. Voilà.
Oui, et moi je trouve ça fascinant quand même d'arriver à se dire que finalement à 39 ans tu fais pas sport, tu prends le vélo comme ça un jour par une espèce de bravade alcoolisée et que 2 ans plus tard quand même tu gagnes la course en ayant fait, donc tu as dit des triathlons, un demi-Ironman, etc. Tu t'es jeté à fond dans le sport à ce moment-là?
Mais oui, bah, d'abord ça, et puis un jour j'ai roulé en vélo entre le dirigeant d'une grosse banque en Belgique et avec un facteur d'un petit village francophone, donc il y avait le côté linguistique, enfin, il y avait un néerlandophone, un francophone, un type d'une grosse banque dirigeant, un facteur, mais on roulait en vélo à trois, et en fait on était les mêmes, et c'est souvent une anecdote que je raconte, parce que j'ai trouvé ça exceptionnel, on n'était pas différents. Pourtant, nous en Belgique, on est fort séparés entre ces deux façons de vivre, les néerlandophones et les francophones. On se côtoie, on s'entend, mais bon, il y a un peu de bisbrouille entre nous. Et là, sur le vélo, tous les trois sur la selle, mais grâce au sport, on était les mêmes. Et je voyais ce facteur francophone d'un petit village qui parlait au gros big boss néerlandophone de Bruxelles. Et en fait, rien n'aurait fait qu'ils se rencontrent, ouais, sauf près de la boîte aux lettres en disant bonjour monsieur, merci monsieur. Mais là, ils partageaient la même passion, ils se charriaient et tout. Et je me disais, putain, c'est ça la vie, quoi. C'est exceptionnel. Donc, c'est grâce au sport que j'ai remarqué que, en fait, on est tous égaux. Je parle évidemment professionnellement et socialement parlant. Et en fait, c'est juste le statut, la voiture, la cravate qui fait qu'on se donne une image. Mais en fait, dans le sport, quand on est tous assis avec notre beau cuissard, ben, c'est sûr qu'on est les mêmes. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi ces valeurs. Et c'est comme ça que j'ai vraiment voulu accentuer ça et vivre un peu plus là-dedans.
Je me posais une question quand on regarde le parcours, parce que, enfin, après, qu'on se rende bien compte, c'est que c'est-à-dire tu t'es vraiment lancé à fond dedans, mais tu as continué ton travail ou tu t'es
Oui,
dit
bien
je
sûr.
bazarde tout, je m'en vais
Non, 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 non. Malheureusement, je n'avais pas assez de pépites sous le côté. Il faut continuer à vivre, évidemment. Donc, j'ai continué l'événementiel, la communication, et c'est ça que j'ai trouvé pas mal de sponsors. Honnêtement, c'est pas parce que je suis bon, mais c'est parce que je communique pas mal. Et mes sponsors se sont dit, bah, tiens, ce type, il est assez rigolo. C'est qu'il était professionnellement, moyennement bien placé dans son domaine. Et maintenant, il se lance dans autre chose, il le communique bien, c'est sympa. Et donc, j'ai très vite trouvé des sponsors. C'est sûr qu'il y a des sportifs plus importants que moi, mais ils ont un peu moins de sponsoring parce qu'ils communiquent un peu moins. Et comme moi, j'étais dans le milieu, ben, quand j'ai un sponsor, je l'invite au départ, je lui envoie des photos, je le motive. Donc, je savais un peu comment faire. Je le faisais tout à fait par passion, hein, pas du tout par intérêt. Et ça, ils l'ont très vite remarqué. Donc, j'ai vite eu des chouettes sponsors comme Red Bull, ce qui est important, comme Castelli, voilà, comme Etix, comme, enfin, voilà, j'ai eu pas mal de sponsors. Et ça m'a vite donné des ailes aussi parce que j'aime pas décevoir les gens. Donc, je me suis dit, voilà, dès que je faisais une course ou je vais plutôt dire un challenge, ben, je m'en proposais un autre parce que je réussissais. Du coup, eux étaient contents, ils disaient, bon, maintenant c'est fini. Ah ben non, ils s'en proposent un autre. Et puis, pour finir, ils se disent, bon, ben, c'est amusant. Enfin, on a misé sur un cheval qui nous amuse et qui n'arrête pas d'avancer. Et c'est assez motivant. Donc j'aime bien le côté motivationnel, côté gagner, perdre, abandonner ou pas, ça c'est accessoire. Je pense que le plus important, c'est être motivé par ce qu'on fait et ne pas abandonner.
Oui, et en plus, ça justifie quelque chose qui est intéressant. Ce qu'on m'avait déjà dit, c'est que finalement, les sponsors, bien sûr que le premier, que les meilleurs, ils ont des sponsors, etc. Mais ce qui les intéresse aussi, c'est finalement l'histoire, c'est les types de défis, c'est le fait qu'il y ait, ça sort de l'ordinaire, quoi. C'est pas juste. T'aurais moins de sponsors si t'arrivais 10 ou 15e d'un Ironman, j'ai envie de dire.
Ah oui, évidemment, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, oui. Si, en plus, je me propose, mais. Mes propres courses, je fais mes propres courses, donc j'essaye de trouver des environnements agréables, j'essaye de, voilà, c'est un peu unique, voilà, chaque course est unique, c'est sûr. C'est pas que je me propose d'aller à Nice sur un triathlon, ou voilà, tout ça j'ai fait avant, mais maintenant je m'amuse réellement, j'ai un team, j'ai une équipe magnifique, voilà, qui m'entoure, qui m'encourage, qui me porte. Il y a des fois où j'ai failli abandonner, mais il n'a fallu qu'une seule nuit, puis le lendemain, je me réinvente une nouvelle course. Donc, j'abandonne jamais personne et on s'entend tous super bien. C'est une famille, c'est la famille. Oui, c'est top.
Oui. Alors, tu parles d'événements de courses que tu organises. Alors, notamment, il y a le triathlon international.
Oui, le triathlon dans les Ardennes que j'organise depuis près de 10 ans. Bon, ben, l'année dernière, il n'a pas eu lieu. C'est un triathlon que j'organise dans nos Ardennes belges, qui était une région vraiment magnifique. Et on passait même sur le circuit de Spa-Francorchamps, qui est le plus beau circuit du monde en Formule 1. Et voilà, donc oui, j'organise ça. Et puis on travaille sur un triathlon également, un triathlon de Bruxelles. Où on n'a pas encore toutes les autorisations, mais on va développer aussi un triathlon à Bruxelles. Donc oui, j'ai orienté ma carrière professionnelle également dans ce milieu-là, parce que je suis un peu crédible. Donc autant continuer de faire ce qu'on aime dans le domaine qu'on aime. Et voilà. Oui.
Alors, ça, c'est pour la partie, j'ai envie de dire, événementielle, où les gens peuvent s'inscrire. Mais après, il y a les défis que toi, tu t'inventes. Et notamment, alors, par exemple, ce fameux Knokke, Ultra Knokke, comment on dit, je ne sais pas comment tu le dis.
Oui, Ultra Knokke, oui.
C'est quoi, quand tu te lances dans ce défi-là, c'est tu te dis, je ne trouve pas un truc qui m'amuse, ou il faut un truc qui... Enfin, plus fun, comment?
Non, l'idée, c'est que, ben voilà, comme je disais, j'ai fait une ou deux petites courses, j'ai fait des semi-Ironman, et puis des Ironman, et puis on s'est dit, pourquoi tu n'augmentes pas les distances? Donc forcément, il n'y a pas de course organisée avec des distances plus importantes. Oui, j'ai fait le Swissman et tout ça, c'est des ultra-triathlons avec des gros dénivelés. Et puis, on a vu qu'après ça, j'ai fini. Le soir, je vais manger un petit bout avec les amis. Le lendemain matin, je vais m'entraîner. Et ça, on trouvait un peu étonnant. Donc, on s'est dit, bon, on va augmenter avec mon coach, on va augmenter les distances, si ça t'amuse. De toute façon, tu ne vas pas être plus rapide qu'un autre. Donc, autant augmenter les distances. Donc, on a augmenté les distances avec des 450 km de vélo et puis 600. Puis voilà, et puis j'aime bien surtout c'est le cadre dans lequel on le fait, donc comme tu disais, qui n'est pas facile à dire. Knokke le Zoet, c'est notre Saint-Tropez à nous. J'adore cette région et je me suis dit ben voilà, je travaille pas mal là-bas aussi professionnellement. Là, je m'étais dit ben voilà, je vais organiser quelque chose sur place, donc j'ai été nager là-bas et puis j'ai fait les grandes boucles et puis j'ai été courir. Puis... Oui, je m'invente des courses parce qu'elles n'existent pas, donc c'est des formats XXXL et je propose toujours à des gens de le faire, mais je ne trouve pas beaucoup de monde. Donc ça, j'ai fait en Belgique, en Hollande, et puis on m'a dit, bah, écoute, pourquoi tu ne fais pas un 7-7-7? Donc c'était 7 km de natation, 700 km de vélo et 70 km de course à pied. Donc, je me suis dit, c'était un peu idiot parce que le temps que j'ai fait sur la course précédente, il n'y a pas encore quelqu'un qui m'a dit qu'il avait fait mieux. Donc, je m'étais dit, je vais me proposer ça en Islande, parce que l'Islande, c'est vraiment un cadre magnifique, dangereux. C'est pas le mot dangereux qui m'excite, mais c'est un cadre où on n'a pas du tout l'habitude de vivre, parce que la température, le climat, plutôt le climat change 7 fois par jour en Islande. Donc ça donnait une difficulté en plus, physique, mais surtout mentale. Et donc j'étais en scouting et en repérage en Islande 3-4 fois. J'ai rencontré des médecins là-bas, j'ai rencontré, enfin voilà, on en a même fait un film. Et je me suis dit, si l'Islande veut bien, si l'Islande m'accepte, je vais faire un 666 ici, je trouve ça trop beau, quoi. Et alors j'ai nagé 6 km dans les fjords à 8 degrés en Islande, mais j'ai vraiment adoré. Et puis 600 km de vélo. Les 300 premiers kilomètres étaient très faciles, mais les 300 suivants, j'ai vraiment eu difficile parce que le temps change. On roule en vélo la nuit où il fait même pas 5 degrés, donc avec la fatigue et tout ça, enfin, vraiment le ressenti est encore plus bas. Et puis aller courir comme ça en Islande dans les montagnes, c'est waouh. Voilà, c'est magnifique. Pour moi, c'est une expérience inouïe.
Et t'aurais des projets d'en faire dans d'autres pays, dans notre région, finalement, des 666 comme ça?
Mais après ça, quand je l'ai fait, il y a eu un film, comme je disais, qu'on peut retrouver, 666 Iceland Challenge. Et là, je m'étais dit, c'est bon, quoi. Voilà. Et j'ai remercié mon équipe et j'ai dit, voilà, on a bien vécu, ça va être top, on va aller voir ce film au cinéma en Islande quand il passera là-bas. Enfin, voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais évidemment, on n'étouffe pas un volcan qui est toujours en activité. Et j'étais dans mon lit et j'ai cette connaissance qui est qui a fait l'Enduroman.
Marine
Marine, pardon.
Oui.
Voilà, j'ai une autre copine qui l'a fait aussi. Je regarde sur Internet et je vois une course qui s'appelle Arch to Work, je cherche, je chipote et tout ça, enfin bon, bref. Et puis je vois le petit film de Marine, que je salue d'ailleurs. Je vois le petit film de Marine et je me dis, putain, celle-là, c'est quand même top ce qu'elle fait. Et je sais pas, je me vois un peu en elle avec sa grand-mère, à Calais, en train de discuter, enfin, à faire un peu son day-to-day. Je trouvais que c'était un peu le même que le mien. Donc, merci Marine. Et puis, j'ai regardé le site Internet et puis il était marqué solo, relais. Et puis, je sais pas ce qui m'a pris en 30 secondes, j'ai réfléchi. Et j'ai cliqué, je me suis inscrit à tout en 30 secondes. Clic, 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 j'ai tout rempli pour faire ça en solo. Et puis j'ai rappelé mon coach, Marc Delpierre, le lendemain. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu connais la course Arch to Arch, l'Enduroman? Et il me dit, oui, tu vas la faire. Bah, j'ai dit, comment tu sais? Et il me dit, bah, c'est pas très dur, si tu m'appelles... un samedi matin pour me dire est-ce que je connais telle course, c'est que tu t'es inscrit, je te connais. Et je dis, tu veux bien m'accompagner? Et il m'a dit, on va en discuter, mais voilà, on va en discuter. Et alors, on en a discuté et on a mis ça en place. Et je suis parti pour m'entraîner pour l'Enduroman quand je pensais que ça allait se calmer.
Oui, alors il faut le dire, c'est que l'Enduroman, c'était, t'as pas pu le finir en fait, hein.
Mais l'idée, c'est une, enfin voilà, je me suis fortement entraîné, je suis parti à l'étranger, c'était vraiment un peu comme un militaire parce que c'était très compliqué comme course. Donc j'ai dû courir 145 km. En fait, j'ai tout eu contre moi. Mais quand je dis ça, on a l'impression que je me plains, mais ça ne me dérange pas du tout, mais c'est l'effet. C'est que je devais faire ça en septembre, il y a 2 ans. Mais le dernier participant de l'Enduroman, mais il a fait tellement mauvais avec la manche et tout ça, les courants, le climat, enfin tout. Il y avait des petites tempêtes, hein, le vent était très mauvais. Donc, Edgar aide l'organisateur, me dit, on va attendre. Donc, le 15 septembre, je vais partir le 20 septembre, puis le 20 septembre, le 30 septembre, et puis le 30 septembre, début octobre, et puis le 10 octobre, puis le 15 octobre. Et puis, il m'a dit, on va abandonner, t'es beaucoup trop loin dans l'année, l'eau est trop froide, les courants sont plus très bons. Et là, je lui ai dit, non, non, je ne me suis pas entraîné depuis un an pour postposer la course. Et puis, comme dit mon coach, c'était très difficile à gérer parce que c'est comme si un type va aux Jeux Olympiques, il doit faire le lancement du javelot et on lui dit, non, ce n'est pas le 15 septembre, c'est le 20, ce n'est pas le 20, c'est le 30. Et en fait, il faut tout postposer, les entraînements, le mental, l'équipe, enfin, tout est difficile parce qu'on postpose, postpose, postpose. Mais moi, j'étais advienne que pourra, mais je le fais. Donc, il m'a dit, OK, à tes risques et périls, OK. Et pour finir, j'ai pris le départ, je pense, autour du 20 octobre. Donc, forcément, le temps est devenu vraiment exécrable. Donc, j'ai fait toute la course à pied sous un temps, mais dantesque, vraiment, une pluie pas possible. Là où je devais courir, sous le bord de route où il y avait des petits chemins, la nature avait repris ses droits. Donc, je courais sur les chaussées en Angleterre en sens inverse. Enfin, bon, c'est cata, j'ai failli avoir plusieurs accidents. D'ailleurs, quand je suis arrivé au bout de mes 145 km, normalement, on est hyper heureux après d'avoir couru ça parce qu'on se dit, ben voilà, première étape est faite. Moi, voilà, je n'étais pas hyper heureux, je l'ai fait parce que je devais y arriver. Et puis, j'ai dormi 1 heure. Et après 1 heure, j'ai pris le départ parce que voilà, je suis arrivé en retard avec ce temps qui était exécrable. Donc, mon créneau horaire pour rentrer dans la Manche, ben vraiment, il ne bougeait plus, il était là. Donc, j'ai dormi 1 heure. Là, Edgar m'a dit, es-tu sûr que tu veux traverser la Manche en ayant dormi 1 heure? Ben, j'ai dit, ben oui, je suis là, j'y vais. Donc, j'ai pris le départ de la Manche. J'étais super heureux. J'étais libéré de cette douleur sur ce béton, cette pluie, ce vent, les blessures et tout, bref. Et donc, là, j'ai nagé. J'étais comme un poisson dans l'eau. J'étais super heureux. Mais malheureusement, après 12 heures de natation, je suis arrivé dans le cimetière des nageurs après 14 heures, après 54 km de natation. Je suis tombé dans le cimetière des nageurs. C'est là où il y a les courants qui s'inversent, les marées qui s'inversent, enfin tout s'inverse. Et il y a eu un problème de communication. C'est qu'une des personnes de mon équipe m'a dit, vas-y Arnaud, il reste plus que 2 heures, fonce, tu y es. Et c'est vrai que je voyais les côtes françaises. D'ailleurs, j'ai eu mon brevet de la traversée de la Manche parce que j'étais sur les côtes françaises. J'étais à 1,5 miles du bord. Mais en fait, non, j'y suis jamais arrivé. Pourtant, j'ai bu des Red Bull, j'ai mangé des gels énergétiques et tout, vraiment pour faire ma dernière ligne droite, foncer, foncer. Mais voilà, plus assez de force de sortir de ce cimetière des nageurs. Et là, Edgar est venu sur le bord du bateau et m'a dit, écoute, Arnaud, il reste 9 heures de natation pour passer cet endroit. Et là, j'ai quand même. Je suis un peu casse-cou, mais je suis pas idiot. Là, j'ai pensé à mes enfants et j'ai pensé aux gens que j'aimais et à moi-même d'ailleurs. Et je me suis dit, ouais, non, 9 heures en plus maintenant, never. Et donc, je suis sorti de l'eau. Voilà, j'ai dormi dans le bateau pour revenir jusqu'au bord. Et puis, sur le bord, il y avait pas mal de monde. Là, on a remangé un spaghetti tous ensemble. Là, j'avais un peu récupéré, donc j'étais moyennement bien. Je suis rentré chez moi à Bruxelles et là j'ai appelé Edgar et je lui ai dit, écoute, je remets le couvert de mon expérience de cette année-ci, je remets le couvert l'année prochaine. Donc je me suis réentraîné, on est reparti en entraînement, camp entraînement à Portland, à Lanzarote et tout. Et je me suis vraiment entraîné beaucoup plus que le précédent parce que je connaissais là mes forces et mes faiblesses. Et quand j'étais prêt, j'ai mes 3 dernières semaines d'entraînement en mer en France, où j'ai fait des 10-12 heures de natation en mer, j'ai couru en montagne, c'est 40 degrés, enfin vraiment, j'ai mis le paquet, j'ai adoré, j'étais prêt, quoi, j'étais vraiment. Robocop était là, quoi, mais je restais un humain, évidemment. Et là, une semaine avant le départ, Covid oblige, Edgar me dit, la course est annulée. Je dis, c'est pas possible, vraiment pas de bol. Pourtant, vraiment, j'étais prêt, quoi, à la limite. J'allais courir sur l'eau pour arriver jusqu'en Angleterre, tellement que j'étais prêt. Mais bon, voilà, Covid, ferme les frontières, bazar, emmerdant. Donc le soir, j'ai été près de chez moi, je me suis enfilé 3-4 bières. Allez, 5-6 bières, je vais être honnête. Et lendemain matin, j'ai réuni mon équipe dans une petite boulangerie près de chez moi et j'ai dit, on va pas laisser tomber les bras. Dans une semaine, c'est le départ de l'Enduromane. On va en créer un en Belgique, sous les mêmes distances. Ça va être plus difficile parce qu'on a énormément de dénivelé chez nous. Surtout pour arriver sur le toit de la Belgique, qui est le signal de Botrange, qui est le point culminant, où je nage là-bas, où j'organise le triathlon du Belmane dans les Ardennes. Et donc, ça s'est organisé très vite. Voilà, j'ai pris le départ. Ça s'appelle Tenacity. Donc, maintenant, les gens peuvent aller sur tenacity.be pour battre mon record. Je suis parti du. Donc, j'ai réussi, je suis super content. Je suis parti des ruines de Villers-la-Ville. C'est un site magnifique. Et là, j'ai couru 145 km jusqu'au toit de la Belgique. Donc, le dénivelé est très important. Et puis, j'ai nagé là 33 km dans un lac. Que la distance de la Manche, mais c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de sel et on n'est pas porté par les courants. Et après, j'ai traversé toute la Belgique en vélo, 300 km de vélo, c'est vraiment un bol fou. C'est 295 km de vélo, enfin, c'est la distance, c'est vraiment magnifique pour arriver sur la côte belge. Et voilà, j'ai réussi en 61 heures et 30 minutes. Et en discutant avec les organisateurs de l'Enduromane, ben, ils ont agréé la course, entre guillemets, parce que je dis bien entre guillemets, parce que la course à pied était plus difficile, puisqu'il y a beaucoup plus de dénivelé chez nous. Forcément, en Angleterre, il y en a moins. Et le lac, bah, c'est compliqué, parce qu'il faut vraiment bah, pousser l'eau pour avancer, parce qu'on n'est pas porté par les courants. Donc, c'était compliqué. Et quand j'ai fait le vélo, c'est pas mal, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. C'était le jour où il y avait le plus de vent en Belgique. Donc, j'ai fait du vélo les 100 derniers kilomètres contre le vent. Mais voilà, je suis super content de l'avoir fait. Donc, c'était pas la remanche, mais je l'ai fait dans un état d'esprit de vouloir faire et réaliser ce que j'avais prévu. Mais c'était pas du tout dans un mindset de revanchard, de me battre pour pouvoir y arriver. C'était pas ça du tout. Je me suis dit, je veux le faire. Je me suis mis en tête de le faire. Je veux faire les distances. Et voilà, et donc Tenacity est né, et je l'ai fait en 61 heures et 30 minutes, en ayant dormi 20 minutes à la première transition, entre la course à pied et la natation, j'ai dormi 20 minutes, et après la natation, j'ai dormi 3 heures.
Oui, c'est vraiment l'enchaînement au plus serré, hein, vraiment, ça fait.
Voilà.
D'ailleurs, je me rends pas compte, j'ai beaucoup de mal à me rendre compte. Le temps que tu passes dans l'eau, finalement, dans cette histoire-là, c'est combien de temps tu as passé dans l'eau?
Ben, là, dans le lac, pour faire les 33 km, j'ai nagé 10 heures. Mais ça, c'était un peu c'est ce que je fais quand je m'entraîne, quoi. Voilà, bon, je vais pas dire que je vais faire 10 heures tous les jours, loin de là. Mais quand je me mets des objectifs de natation, c'est souvent un objectif de 10 heures. Et donc, voilà, là, je les ai faits. Mais j'avoue, entre nous, comme on discute juste à nous deux, c'est que j'ai vraiment eu très difficile parce que la personne qui me donnait à manger sur le bateau m'a pas mal distrait. Donc, il m'a sorti de ma bulle de concentration comme j'avais eu dans la Manche. Donc, j'ai eu dur de me concentrer. Donc, j'ai été un peu perturbé dans l'eau. Donc, ça, pour moi, ça a été très difficile. Après, j'étais de nouveau seul sur mon vélo. Donc, ça a très bien été. Et avant, j'ai couru et ça a bien été. Mais l'étape qui était pour moi normalement la plus facile, parce que c'était une des parties que j'avais déjà fait plusieurs fois, s'est avérée la plus difficile, vraiment la plus difficile, parce que on m'a sorti de ma zone de concentration. Ouais.
C'est intéressant cette zone de concentration. Finalement, comment tu laisses, comment tu comment t'as découvert cette zone, j'ai envie de dire, comment c'est quelque chose que tu as travaillé?
Oui, bien sûr. Donc, j'ai un coach mental qui est Marc Dalpierre, de chez Mentally Fit, qui est assez connu. C'est des gens assez pros. Il entraînait avant la joueuse de tennis de chez nous, qui a été championne du monde. Il s'occupe des forces spéciales. Donc, pour dire, je dis ça pas pour moi, loin de là, mais pour dire que le mental a une force exceptionnelle. D'ailleurs, à mon niveau, mon petit niveau, je dis bien, le mental est à 70% et le physique est à 30%. Donc, on travaille très fort ça au quotidien, quasi tous les jours. C'est le mental qui nous amène là où on veut arriver, évidemment. On peut s'entraîner physiquement, ça c'est sûr, parce que forcément, si je ne m'entraîne pas physiquement, forcément, c'est le béaba. Mais le mental, c'est 70%, pardon, je vous 70% de la course, ouais. Et ça se travaille avant, pendant et même après.
Oui, puis c'est ce qui te permet aussi finalement de supporter les charges d'entraînement. Parce que, alors j'ai lu que notamment sur certains entraînements, tu faisais un Ironman à l'entraînement.
Mais oui, ça m'ennuie de le dire, mais parce que ça semble bizarre, mais pour moi, un Ironman, ça n'a rien du tout de compliqué. Rien du tout. Parce que quand on a nagé 54 km, bah, mentalement, qu'est-ce que c'est nager 3,8 km? Quand on fait 600 km de vélo, ou des fois j'ai fait plus pour de certains entraînements, bah, 180 km, bah, c'est réalisable, je veux dire. Et alors, courir, bah, courir quand on a un objectif de 145 km de course à pied, ben, on court souvent 40 km ou 60 ou 80 et parfois 100, pas souvent, mais parfois 100, ça va me faire beaucoup plus. Donc, on relative beaucoup les distances et une des forces que j'apprécie énormément, c'est que je saucissonne mes challenges. Et quand je fais un Ironman en entraînement, ben, je me dis, voilà, Arnaud, tu vas te faire plaisir, je vais nager 3,8. Et même, je me dis, mais pourquoi je fais 3,8 km? Ça rime à rien. Mais si, ça rime. C'est l'idée de s'habiller, de se concentrer, d'aller dans l'eau, de faire les bons mouvements, de bien respirer, d'avoir un bon cardio, de savoir rester calme et puis faire sa transition, se changer et aller faire deux boucles de 90 km en vélo. La première, ok, je commence, je me fais plaisir. La deuxième, je pousse un peu plus. Et puis, je mets de côté le vélo, j'oublie ma natation, j'oublie mon vélo, sérieusement. Et là, j'attaque le chapitre marathon. Et donc là, je commence à courir. Les 10 premiers kilomètres, c'est comme si j'étais encore un peu sous mon vélo. Là, je suis encore un peu drogué. Et puis, je fais un demi-marathon. Et puis, je commence à déduire. Ben voilà, il en reste plus que 20, 15, 10, 5. Et puis voilà, j'ai fini et j'ai eu une bonne journée d'entraînement. Mais tout ça, c'est dans la tête. Je l'ai pas fait contre des gens où j'essaye de pousser. C'est ça souvent le problème, c'est quand on s'entraîne. C'est pour ça que je suis un solitaire et on m'a trouvé un animal qui me va pas mal dans mes courses ou avec mon coach. On travaille beaucoup là-dessus, c'est que je suis le loup. Et le loup, il est souvent en meute, mais souvent il est seul et il part chasser seul pendant des semaines, des jours entiers. Et ça, c'est moi. J'aime bien aller courir. Avec des gens, ça m'ennuie parce qu'il y a toujours des gens qui se disent, ah, ben, je vais courir avec lui, donc je vais foncer, comme ça, je serai à son niveau. D'abord, j'ai pas de niveau, je me compare à personne et parce que je suis personne. J'aime bien courir à ma vitesse et accélérer dans les montées, ralentir dans les descentes, faire un travail sur moi-même sur les lignes droites. Voilà. Donc, quand je fais des grosses distances en entraînement, ça n'a rien d'étonnant parce que je le fais à ma vitesse, quoi. Et ceux qui font un Ironman en course, ben, je comprends qu'ils disent que c'est compliqué parce que inconsciemment, ils veulent dépasser le mec qui est devant eux en natation ou ils veulent rester dans la vague, ou bien ils se dépêchent comme des fous à la transition et puis ils partent en vélo, ils oublient un truc, ils sont énervés, ils ont oublié un gant, pas de bol, ils vont faire 180 km avec un seul gant, et puis ils sont énervés, et puis ils poussent parce qu'ils veulent suivre le type qui est devant, et puis ils ralentissent, et puis ils sont crevés. Moi, je fais ça à ma vitesse et je ne passe que du bonheur. Donc, y a rien de d'étonnant. Enfin, je veux dire, ouais, c'est pas dingue, quoi.
Ouais, et tu regardes même pas le chrono, je veux dire, dans ces séances d'entraînement d'Ironman ou.
Oui, je sais que forcément, je dois le faire en dessous de 12 heures en entraînement parce que, voilà, je prends mon temps. Je m'arrête, je mange un spaghetti, puis je repars. Enfin, voilà, je fais ça à mon aise en dessous de 12 heures, quoi.
Oui, mais alors ce qui est incroyable quand même, c'est que tu dis ça, je fais ça à mon aise tranquillement en dessous de 12 heures, etc. Mais ce qui ferait rêver beaucoup de gens et qui, moi, tu vois, je me dis, bon, j'aurais bien faire un Ironman en 2023. Ça me semble juste gigantesque, tu vois, comme défi. Et d'un autre
Mais il
côté,
faut
quand je te l'ai
relativiser.
invité, je me suis dit, mais toi aussi, tu as commencé à zéro il y a pas si, enfin, il y a 10 ans maintenant.
Mais oui, mais ce qu'il faut, c'est. J'ai la chance, je dis la chance parce que j'adore faire des conférences. Je fais des conférences sur le dépassement de soi et je commence toujours par dire qui est champion ici? Mais je fais exprès, évidemment, pour emmerder les gens. Je montre un film où je fais vraiment de ma gueule, j'avoue. Pour être sûr que personne ne lève la main, sinon j'ai l'air idiot. Et donc, personne ne lève la main. Et j'ai déjà fait ça dans des endroits où il y a des champions de hockey ou de tennis ou foot ou n'importe. Et évidemment, ils sont meilleurs que moi, hein, on est bien d'accord, mais ils n'osent pas parce qu'ils se disent, putain, c'est pas possible. Et puis, quand j'ai fini ma conférence, je dis, qui est champion ici? Et puis, évidemment, tout le monde lève la main parce qu'on est tous champions de nos propres challenges, nos propres courses. Et donc, forcément, quand je coach quelqu'un va me dire, je veux faire un Ironman ou un marathon dans une semaine, je dis, ben non, mets-toi des objectifs atteignables. Et puis, on va travailler pour monter, 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 monter. Ben, toute personne sait faire voilà, ce qu'on fait, mais il faut se mettre des objectifs atteignables et saucissonner ses entraînements, saucissonner ses courses, saucissonner, aller doucement, parce que le cerveau, si on dit au cerveau, allez, semaine prochaine, un marathon, là, dans 2 mois, je veux faire Boston, dans 4 mois ou 6 mois, je vais faire Amsterdam, ben, le cerveau, il est déjà fatigué avant de commencer, il faut le ménager, quoi. Donc, le cerveau, c'est notre partenaire. Donc, il faut rassurer le cerveau et dire, on va d'abord faire 3 courses de 10 km. Dès que ça s'est atteint, on va faire un semi-marathon. OK, on a bien fait ça. On refait un 10 km pour se rassurer. Et après, hop, on rattaque un marathon. OK, je sais faire des marathons. Ah, ben, si je faisais un peu de vélo, c'est amusant. Puis voilà, puis il faut mettre brique par brique pour construire une maison et d'abord mettre les fondations. Et dès que ça c'est fait, ben voilà, on peut rajouter les étages et c'est solide et ça tient bien. Si évidemment vous mettez le troisième étage et les fondations sont pas bonnes, malheureusement, il va y avoir de la casse.
Tu es un peu en train de me faire flipper sur des aspects parce que le schéma que tu as dit, 5, 10, semi-marathon, etc., c'est les étages. Je suis exactement en train de les rajouter en fait, les étages. Et je me dis, mais où est-ce que je vais m'arrêter? Tu t'es posé toi un jour la question de dire, est-ce qu'il y a une limite ou est-ce que finalement je peux toujours aller un peu plus loin encore ou est-ce qu'il y a des nouveaux trucs qui me démangent?
Ben oui, parce que là, je me suis relancé dans une nouvelle course qui est 5 000 km de vélo. Je me dis, ben, c'est sûr que c'est beaucoup, mais je m'en fous des 5 000. Je pense pas aux 5 000. Je pense surtout maintenant à mes entraînements. Je dois tout faire pour bien faire mes entraînements. Donc, ça, c'est ma base. Je pense pas au quatrième étage qui sera sans doute la finish line, mais. Voilà, là, je suis complètement dans mes fondations. Je travaille mon mental, je travaille mon planning d'entraînement. Je monte très fort en intensité à certains moments. Il y a un nouveau facteur pour cette course, c'est qu'il va y avoir peu de périodes de récupération. Donc, on est en train d'analyser si le corps humain peut atteindre des niveaux comme cela. Parce que le Tour de France, c'est 3 000, ceci, c'est 5 000, mais sans nuit de repos. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est rouler et dormir quand mon mental en a besoin, mon physique, dormir 1 heure, 2 heures, et puis repartir. Mais je devrais calculer également, c'est la récupération cardiaque, évidemment, parce que mon mental peut très bien aller plus vite et tenir plus longtemps que mon cœur. Bon, il ne faut pas que mon cœur lâche, évidemment. Donc, on va maintenant en période d'entraînement. Ce mois-ci, je vais faire un samedi matin, dimanche soir en vélo, quasi non-stop. Pour voir un peu mon niveau cardiaque, l'oxygène dans le sang. Enfin, là, on part dans d'autres recherches et dans d'autres sphères qui m'intéressent parce que je suis curieux, j'ai envie de voir, mais je suis très, très bien entouré. Donc, je ne vais pas faire l'idiot seul, ça, de mon côté. Et puis, voilà. Mais on est vraiment en train de regarder, on va faire des prises de sang, on va analyser, on va voir est-ce que c'est réalisable ou pas. Parce que j'ai pas envie de faire ça avec un vélo all-road, dormir 12 heures, faire le lendemain 200-300 km, dormir 12 heures, faire 200-300 km, dormir 12 heures. Ça m'excite moins, j'appelle ça le côté un peu plus tourisme, mais c'est magnifique quand même. Moi j'ai envie de faire plus dans le mode, voilà, faire un temps. Ben, il faut faire un temps dans des conditions évidemment où c'est réalisable. Parce que je vais faire confiance à mon équipe et je vais me pousser. Fort, donc il faut que je sois sûr à 100% que tout ce qu'on ait analysé et tout ce qu'on va réaliser, ben, que je fasse confiance. Si mon médecin dit continue, ben, je continuerai. S'il me dit t'es obligé de dormir pendant au moins 3 heures ou 4 heures, ben, je le ferai parce que lui, il le sait, parce qu'il a sous les yeux toutes les analyses qui font que je serai obligé de me reposer, sinon ça n'ira pas, quoi.
Oui, alors d'ailleurs sur ton site, sur ta page Instagram, hein, je mettrai le lien bien sûr dans les notes, on voit que tu as fait un test, tu marques en grande forme. C'est le genre de suivi que tu as avec on voit la puissance, fréquence max 157, fréquence cardiaque max 157. C'est le genre de test que tu fais régulièrement, que tu recommandes aussi d'ailleurs de faire, j'imagine, pour ce genre de quand on se lance
Mais
des défis.
oui, il faut pas être idiot. Même les sportifs d'un certain niveau que je coach, je les oblige à faire des prises de sang et des tests cardiaques. Parce que déjà, monsieur et madame tout le monde, ça devrait, je dis bien, ça devrait être obligé. Comme ça, on voit au moins nos carences. Ça peut être possible que quelqu'un dise, oh, moi, je dors pas très bien au quotidien, ou je suis un peu stressé, ou je me sens un peu faible, ou je suis pas, ou j'ai le tournis, ou j'ai la tête qui tourne. Bah, forcément, les gens, ils vivent au quotidien, ils mangent ce qu'ils pensent bien manger tous les jours, mais peut-être qu'ils sont en manque de fer, de calcium, d'oméga-3, de soleil, enfin, j'en sais rien. Donc, je trouve que, et en plus, quand on pousse un peu le corps, point de vue sportif, bah, alors évidemment, faire une analyse sanguine et voir, ah, il manque absolument ça. En plus, comme tu es sportif, tu vas puiser dedans. Donc, forcément, tu as tes gencives qui saignent un peu, ou tu as un peu mal de tête, ou tu as un peu mal par-ci par-là. Donc, il faut faire une prise de sang, je trouve ça important. Et alors, le test cardiaque, évidemment, est hyper important parce que le cardio, ben, ce serait con de s'arrêter au milieu d'une course juste parce qu'on a une artère ou quelque chose de bouché. On ne le sait pas comme ça, assis dans un fauteuil, mais c'est vrai que si on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, ben, à un moment donné, voilà, le sang circule de plus en plus fort, de plus en plus vite, et si c'est bouché, ça peut, voilà, il peut y avoir des soucis. Donc, oui, il faut faire un test cardiaque, et ça devrait être obligatoire, je pense, pour toute personne au-dessus de 40-45 ans.
Quand on parle de stage-là et tout, et que tu regardes un petit peu, tu repenses à ta vie avant d'être sportif, cette période de 15 ans où tu faisais plus du tout de sport, qu'est-ce que tu t'en dis finalement de cette époque?
Bah merci, ça m'a économisé. Donc, j'ai été dans une boule de glace pendant 15 ans, dans un bac, et on m'a réveillé en grande forme. Bah, c'est ce qu'ils disent. J'ai fait dernièrement, pas dernièrement, il y a quelques mois, 12 heures de vélo d'intérieur, où chaque heure, j'avais un sportif qui pédalait à mes côtés. Donc, c'était assez sympa. J'ai eu un gars qui a fait 15 fois Paris-Dakar. J'ai eu Paul Belmondo, votre ami français qui roule très, très bien en vélo. J'ai eu le champion du monde de hockey. J'ai eu tous les pilotes, enfin, tous les grands sportifs. Donc, c'était très gai. Donc, chaque heure, je roulais avec un sportif. Et ils disaient tous, putain, c'est waouh, qu'est-ce que tu fais, quoi? Nous, on est déjà morts sur ce vélo de spinning pendant 1 heure. Et toi, tu fais ça pendant 12 heures. Et alors, c'est vrai Il disait, mais c'est vrai que c'était très drôle. Il disait, bah oui, forcément, toi, tu t'es économisé pendant 15 ans, t'as rien foutu pendant 15 ans. Donc, forcément, qu'il est temps que tu te réveilles. Donc, oui, je pense que ça a joué bah oui, j'ai rien nulle part, quoi. J'ai les articulations, tendons, j'ai rien, rien, rien. J'ai juste eu l'année dernière. Ça s'est enchaîné parce que j'ai pas su rester calme. Donc, je pense que c'était un peu de ma faute. Une déchirure au mollet, et puis une infection au mollet, et puis un staphylocoque, et puis un cancer. Donc, tout ça, c'est additionné très vite, mais tout a été très, très vite par la suite résorbé, réparé, entériné. Maintenant, je suis un nouvel homme, et voilà, je suis très content.
Oui, alors tu dis ça quand même avec une simplicité, parce que tu finis par dire un cancer dessus. J'ai l'impression que vraiment, alors c'est moi le truc quand je regarde ça, c'est le moral, le mental, la vision des choses. C'est vraiment extraordinaire. Enfin,
Mais non.
hein?
Mais je pense pas. Je pense que. Moi, je dis toujours, pas toujours, hein, on s'entend. Hein, évidemment, je suis un peu extrême, comme vous pouvez le constater, mais les gens sont là où ils se mettent et puis c'est tout. Merde. Je peux très bien me morfondre et me mettre à pleurer. Hein. Ben, est-ce que c'est pour moi, je parle pour moi, est-ce que c'est la solution? Non. Ben alors, on relativise, on se bat, on fait ce qu'on doit faire. on obéit, voilà, maintenant Arnaud, tu as été trop loin, tu dois obéir à ton coach, tu dois obéir à ton ostéopathe, tu dois obéir à ton médecin. Oui, mais je peux encore faire un peu d'exercice du haut du corps. Non, on a dit, ok, pardon, pardon, ça va, je ne fais plus rien, je ne fais plus rien. Et tu lèves la jambe, sinon on va te l'arracher. Ok, pardon, pardon, ok, ça va, j'obéis. Et voilà, il faut... Voilà, j'aurais pu très bien pleurer, m'énerver, voilà, enfin, j'en sais rien. Ceux qui ont des burn-out et des choses comme ça, c'est des gens qui restent dans leur boulot parce qu'ils veulent absolument y rester, parce que c'est quand même plus facile, c'est à côté de chez soi, mais en même temps, c'est difficile. Bah non, il faut prendre des décisions dans la vie. Moi, j'ai pris des décisions qui étaient très, très dures à prendre dans ma vie, mais quand je les ai prises, j'ai été très content. Voilà, il faut oser... Il faut oser le changement, il faut se bouger le cul, il faut oser retomber en arrière pour après mieux repartir, il faut accepter moins bien gagner sa vie, il faut accepter oui, voilà, plein de choses, mais le résultat est après gigantesque, donc top.
Ouais. Alors, on va terminer pour un mot sur ce fameux défi scandibérique, hein, ces fameux 5000 km de vélo. C'est quoi l'idée, en fait, le parcours, pour expliquer un petit peu aux gens comme ça?
Mais il y a une nouvelle piste cyclable qui n'est pas encore finie, mais qui part de la Norvège jusqu'au sud de l'Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui a été tracée. Je m'étais dit cette année-ci, évidemment, avec le Covid, la natation, enfin, prendre rendez-vous pour nager dans une piscine, no way pour moi, quoi, ça c'est sûr que non. Donc, je me suis dit, la natation, je vais attendre un peu, tant pis. La course à pied, je remercie mon corps d'avoir fait plusieurs fois 145 km, donc je respecte quand même, ça va être idiot de le faire tout le temps, donc je me dis, bon, la course à pied, je vais diminuer, maintenant je fais des distances évidemment beaucoup plus courtes, mais régulières. Mais le vélo, voilà, j'ai envie de faire une longue distance en vélo et voilà, en cherchant avec des gens de mon équipe, on m'a proposé la Scandibérique. Et donc ça, évidemment, c'est la Norvège, c'est encore un pays qui me parle énormément. Puis traverser toute l'Europe, ben, je me dis waouh, ça a de la gueule, je vais avoir du paysage. Et voilà, j'en ai parlé avec mon équipe qui n'a pas hésité une seconde et qui a dit ok, on fonce, quoi, c'est trop bien, quoi. Et alors voilà, j'en ai beaucoup parlé avec Marc Delpierre, mon coach, et voilà, il voulait être certain que ce soit pas un bête challenge qui prenne place sur les triathlons extrêmes. Et j'ai donné un sens à cette course. Et puis, on est en train de voir pour calculer la qualité de l'air à travers l'Europe. Donc, ça va donner un sens à ma course. Et puis, également, voir pour le sport 50 ans en plus. Bon, attention, j'aurai juste 50 le 19 juin, donc ce sera au milieu. Donc, je suis pas, c'est pas 59. J'ai 49, presque 50. Et voilà, voir un peu la résistance du corps face à l'effort fourni, quoi.
J'avais un dernier mot quand même, parce que une dernière question, c'est comment on voit ton entourage, notamment la famille, parce que j'imagine le nombre des heures d'entraînement, tout ce qu'il y a à faire pour arriver à préparer ces choses-là. Et il y en a qui vont se dire, mais comment tu fais pour tout gérer, comment? Enfin, tes journées font 24 heures forcément, donc à un moment donné, on se demande un peu tous comment on s'organise.
Mais en plus, je vais dormir tôt, donc mes journées sont bien remplies. Mais non, mais il faut s'organiser. Malheureusement, parce que pour moi, c'est un échec, évidemment. Je suis pas l'homme le plus heureux du monde de ce côté-là. C'est que voilà, je suis séparé, donc c'est sûr que c'est quelque chose que quand on se marie et quand on demande d'être unis pour la vie, bah, à un moment donné, on est séparé, donc on n'est plus unis. Donc pour moi, ça c'est un échec de ma vie. Tout le reste, c'est pas des échecs, c'est des apprentissages. Ici, je peux pas appeler ça un apprentissage. Donc, mes deux enfants sont ma priorité, ça c'est sûr. Donc, quand je les ai, j'essaye de m'entraîner quand ils sont à l'école, et quand je vais les chercher, ben, je m'occupe d'eux et je passe des moments familiaux avec eux très importants. Quand j'ai pas mes enfants une semaine sur deux, évidemment, ça me laisse du temps pour avoir des entraînements plus importants et plus tardifs. Donc, ça c'est une bonne chose. Et à côté de ça, ben, je m'entraîne beaucoup, je me lève tôt le matin, par exemple tous les week-ends évidemment je m'entraîne, mais je me lève tôt le matin et j'essaie d'être rentré vers midi, 1h, et puis je vais encore courir une fois le soir, mais c'est pas dérangeant, quoi. J'essaie de faire en sorte que ça ne dérange pas mon entourage, que je sois pas un égoïste à partir à 11h du matin et revenir à 5h du soir. Là, ce serait complètement égoïste parce que je préparerais mes affaires avant, Voilà, je ne ferai que ça, donc on se dirait, tiens, ce mécano, il commence à être un peu emmerdant. Ici, non, moi, je prépare mes affaires à mon aise le soir, avant d'aller dormir, quand j'emmerde personne. Le matin, je me lève tôt, vers 5-6 heures du matin, voilà, tout le monde dort, donc j'emmerde personne. Donc, j'essaie d'être discret de ce côté-là. J'ai pas une médaille ou une coupe chez moi, j'ai pas une photo. Voilà, c'est quelque chose que je fais pour moi. Si je voulais faire ça pour les autres, je serais aux Jeux Olympiques en train de me battre contre les autres. Ici, c'est quelque chose que je fais pour moi et si je peux le transmettre pour la passion et voilà, pour certaines valeurs, je le fais, mais je ne le fais pas pour la galerie, quoi.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cette vision des choses et ces conseils.
Merci à vous.
C'est moi vraiment quand j'ai découvert ton parcours et puis ces choses-là, je me suis dit c'est incroyable et en même temps, enfin. Je veux dire, la progression d'avoir arrêté le sport et puis qui parle tellement à mon parcours et puis aux auditeurs. J'avais vraiment envie de savoir comment j'étais passé de cette étape finalement où il n'y a pas de sport à devenir comme ça.
De rien à beaucoup.
Oui, et je ne sais pas comment qualifier en plus, c'est pour ça, parce que ultra athlète, je ne sais pas quel était le mot qu'on pouvait définir, mais je trouve ça extraordinaire. On va finir, je ne sais pas si tu as un mantra, une petite pensée, une petite philosophie particulière qu'on pourra rajouter qui te fait avancer, ou tu te rappelles quand c'est un peu compliqué, je ne sais pas.
Je pense qu'il y a beaucoup, la chose la plus importante évidemment c'est être heureux, parce que quand on est heureux, ben le bonheur est contagieux, donc on est dans une sphère positive, donc être heureux et puis quand on croit à quelque chose, il faut surtout ne jamais abandonner, quoi, ténacité, quoi. C'est pour ça que j'ai appelé cette dernière course que j'ai réussi, la ténacité. Il faut être tenace dans la vie, il faut pas abandonner et on y arrive. Et il faut aussi oser le changement. Il faut être un peu comme l'eau qui coule sur le poil d'un canard, quoi. Il faut ruisseler, il faut aller là où l'eau va et alors on sera heureux. Il faut pas aller à contre-courant, ça marche pas, quoi. La preuve, la Manche m'a arrêté, donc la preuve est là, quoi.
Eh ben, merci beaucoup. Alors, on va redonner. Alors, Tenacity, il y a un site internet, hein, c'est là où on suit un peu l'ensemble de tes aventures.
Donc, c'est gentil. Donc, tenacity.be, ça c'est pour ceux qui veulent faire la course en Belgique, en relais ou en solo. Il y a le bellman.be qui est le triathlon dans les Ardennes et on verra si Bruxelles aura lieu avec ce Covid et autres. Et alors, on peut suivre ma page si jamais. Et surtout me poser des questions. J'aime bien l'interactivité. Ma page Instagram, Arnaud de Meester, tout en un mot, et Facebook, mais voilà.
Voilà.
Et avec puis, plaisir.
Voilà, je mettrai tous les liens en tout cas pour suivre. Puis je mettrai quelques liens vers des vidéos parce que j'avais regardé certaines vidéos, notamment du 666. Et alors, il faut le dire, hein, parce que les vidéos, notamment, sont extrêmement bien faites. C'est là aussi où on voit le côté communication. On voit aussi que c'est extrêmement ton sens de la communication qui permet aussi de construire tout ça et qui est très intéressant. Merci en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps passé avec nous, pour tous ces conseils.
Ben, merci à toi, merci.
J'ai nul doute qu'il y ait des gens qui seront intrigués de savoir comment d'avoir des conseils, parce que je sais en plus qu'il y en a qui écoutent et qui veulent se lancer dans des défis aussi et qui se demandent bien comment on peut s'y prendre, hein, et qui verront aussi, parce qu'il y a des récits... des difficultés que tu as pu rencontrer, etc., qui montrent aussi que le corps et l'esprit peuvent repartir, hein, même quand ça a été
bien
difficile.
Bien sûr, bien sûr. Il faut juste commencer, quoi.
Et ben, en tout cas, merci, merci, merci beaucoup. Et puis
merci,
voilà, c'est ce qui clôture cet épisode. On se retrouve, nous, ensuite pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne vous dis pas l'invité, vous le savez, ça sera la surprise, mais vous verrez, je pense qu'on partira encore dans de belles aventures. Merci beaucoup, Arnaud.
Merci, au revoir.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.